Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les rencontres professionnelles du logiciel libre de Lyon, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, cyberstructure et le piège de la peau de phoque dans le boyau, une chronique de Laurent et Laurette Costi. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Julie Chaumard, bénévole à l'émission de radio Libre à vous. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous trouverez une page consacrée à l'émission du jour avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toute question. Nous sommes mardi 25 juin, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Frédéric Coucher. Bonjour Fred.
Salut Julie, belle émission à vous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
À cœur vaillant, la voix est libre, de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, avec des logiciels libres et des services respectueux des utilisatrices et des utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. Au programme aujourd'hui, cyberstructure et le piège de la peau de phoque dans le boyau.
Et nous voici donc, mardi 25 juin 2024, pour la dernière chronique de la saison. On vous en promet des bien belles, vous allez rire aux larmes et apprendre des tas de trucs super sympas à placer dans les conversations familiales pour paraître plus intelligent ou intelligente que vous n'êtes.
Ah ben, en parlant d'intelligence, je peine encore à clarifier certains points autour de l'empreinte et de la signature des fichiers. Je me suis dit que, au lieu d'essayer d'expliquer à d'autres des choses que je n'ai pas comprises, il était sans doute plus simple d'aller directement interroger la source.
Oh mais voilà qu'une bonne idée que c'est! Je vais enfin comprendre des trucs. Laisse-moi deviner qui tu vas inviter et j'ai ma petite idée. Émilie, peut-être, la pote libriste de Sweden's Crumbledish. Elle avait pas un ami qui s'y connaissait plutôt bien en cyberstructure et qui considère l'Internet comme un espace politique?
C'est lui, Stéphane Bortsmeyer, dont le livre Cyberstructure, l'Internet, un espace politique, est juste à 22 € aux éditions CEF. Je le recommande. Et tu vas voir, il explique bien. Allô Stéphane? Tu es en attente sur la ligne invité depuis 8 heures ce matin. Je sais que tout va bien pour toi. Peux-tu expliciter ces notions d'empreinte de fichiers et de signature?
Alors, attention, la cryptographie c'est compliqué et la sécurité informatique c'est compliqué. Là, on va mêler les deux. L'empreinte est aussi appelée condensat ou hash parce qu'en anglais c'est plus chic. Elle est le résultat d'un calcul qu'on fait sur le fichier qui le réduit, le condense en une série de chiffres plus courtes que le fichier. Le point important ici, c'est que le calcul de l'empreinte ne nécessite pas de connaître un secret quelconque. Tout le monde peut la calculer.
Les hashkicks et le condensat. Il y a moyen de faire des jeux de mots avec ça. Mais bref, restons concentrés. Et la signature alors?
On y vient. L'empreinte n'apporte guère de sécurité. Si un site web affiche « Téléchargez notre super logiciel libre qui va tout faire et le café », et pour vérifier qu'il est authentique, calculez son empreinte. Vous devez trouver 6B, 4E, 7, 0, etc. Cela ne sécurise rien. Un méchant qui aurait piraté le site web peut tout aussi bien modifier le logiciel, calculer l'empreinte et la publier. Au contraire, les signatures, elles, nécessitent de connaître une information qu'on nomme la clé secrète. Techniquement, les opérations de signature incluent entre autres le calcul d'une empreinte. Mais surtout, la signature va dépendre non seulement du fichier signé, mais aussi de la clé secrète. Le méchant cité plus haut serait donc bien embêté. Ne disposant pas de la clé secrète, il ne pourrait pas générer une signature convaincante. Donc les signatures, c'est plus compliqué à faire que les empreintes, mais c'est plus mieux.
Super, merci pour ces claires explications. Oh, c'est limpide. Je vais intercéder auprès de mon père pour qu'il te fasse revenir plus souvent pour expliquer plein de trucs. En attendant, la bise à Emily et à son pote Sweden Scrummeldish et à Fofone.
Je réécoute la chronique 18 d'un cœur vaillant, la voix est libre, pour bien comprendre ce que tu me racontes, et je n'y manquerai pas. Je vous laisse, car je dois aller m'expliquer auprès d'experts en cryptographie et en sécurité qui se roulent par terre de désespoir, car j'ai dû condenser des notions compliquées en une émission, certes très sympa, mais trop courte. Plein de zéros et de 1 positifs dans vos boyaux.
C'est bon, elle est contente d'avoir enfin des vraies explications qu'elle comprend. Bon, j'ai pas écouté, mais je trouve qu'il explique pas si bien que ça, finalement. Hein. Et d'ailleurs, tu vas faire comment pour appliquer ça dans l'association dans laquelle tu es en alternance, hein?
Mais il est jaloux, le papinou, c'est trop mignon. Il est tout chafouin, maintenant. Mais oui, oh, toi aussi, ça t'arrive de bien expliquer des trucs, parfois. Oh bah, tiens, par exemple, pas plus tard qu'il y a pas longtemps, quand tu m'as expliqué pourquoi le néolibéralisme emmenait l'humanité à sa perte, bah, j'ai tout compris, d'abord.
Ah, bah voilà, une bonne nouvelle. Et sinon, du coup, ça se passe comment dans l'assaut? Ça avance cette transition numérique vers un système d'information plus respectueux des utilisateurs et utilisatrices?
Bah écoute, comme tu l'avais suggéré, on a demandé une ouverture d'un Framaspace auprès de Framasoft, car notre objet et notre taille correspondaient aux critères qu'on retrouve sur la page du projet. Je cite « espace réservé exclusivement aux associations et collectifs militants ». Bon bah cool, déjà, c'est tout nous. Et ensuite, je cite à nouveau, les espaces Framaspace sont limités à 50 comptes et un espace de 40 gigas maximum. Bah, c'est encore une fois parfaitement nous, c'est cohérent avec notre besoin.
Ouah, ils sont vraiment forts chez Framasoft. Tu sais que je connais des gens bien là-bas.
Oh, ouah, mais du coup t'es super important, oh là là, bravo.
Ouais, je sais, merci. Bon, et sinon, les membres s'approprient ce merveilleux outil? Comment fais-tu pour les convaincre de se passer de leurs outils auxquels ils sont habitués et qui leur paraissent plus simples à cause des habitudes acquises?
D'abord, bah, c'est primordial, la gouvernance. Mon directeur, pour pas le citer, était convaincu et demandeur, donc sans ça, je pense pas qu'on aurait avancé. Ensuite, j'ai fait intervenir un tiers qui connaît des gens bien chez Framasoft. Exprimer des choses avec un pas de côté permet un partage synchrone et donc un ancrage profond de la démarche pour une réussite à long terme.
Alors là, je dis carrément. Et je vais même appuyer le propos. Figure-toi qu'en début d'année, j'ai suivi une formation en cybersécurité proposée par France Travail. En passant, merci France Travail. Bon, 399 heures de cybersécurité pour tout te dire. Bon, pas dans la même journée, hein. Eh bien, un truc que j'avais déduit comme toi de mes interventions et de mes vécus est confirmé par les méthodes et les normes qui régissent la cybersécurité. L'implication de la gouvernance dans le processus est un incontournable.
C'est à la fois évident et à la fois trop souvent négligé. Du coup, à l'assaut, on condense plutôt pas mal dans le nuage désormais. On utilise Framaspace et nos données ne sont plus sur des clouds dont le seul but est de récupérer un max de ces dites données pour mieux enfermer.
Ça me fait une excellente transition pour te narrer une situation que j'ai accompagnée et pour illustrer cette avidité des plateformes de cloud. D'un autre côté, comme j'écris le texte, c'est hyper facile de faire croire que la transition tombe bien alors que, finalement, elle était habilement pensée et préparée.
Et tarte à la choucroute et au minster, t'avais anticipé ça que j'allais dire tarte à la choucroute et au minster? Toc l'abricot.
Alors ne change pas de sujet, s'il te plaît. Ce que je vais dire est grave. J'accompagne une association qui a pris une excellente décision. Changer ses outils pour le mieux. Jusqu'à ce jour, elle utilisait Dropbox sans se rendre compte à quel point ce truc les manipulait. Je n'avais jamais touché à ce machin et j'avais raison. Et devoir mettre les mains dedans pour aider la structure à démêler leurs besoins réels de la réalité que Dropbox avait réussi à construire n'a pas été chose facile. J'ai vraiment morflé.
Allez, vas-y, raconte-moi comment Jean-Claude, membre de l'asso, se faisait empapaouter par ce service qui, avant de penser le bien-être de la structure, privilégie d'abord la stratégie d'enfermement et son chiffre d'affaires.
Alors pour le chiffre d'affaires, on comprend vite, hein. Le premier texte qui apparaît en haut à gauche de l'écran avant même le mot accueil, c'est « Mettez à jour votre carte bancaire ».
Ça peut paraître symbolique, mais c'est absolument révélateur. D'abord le pognon, ensuite le reste. J'ai rien contre l'argent, hein. C'est nécessaire dans notre société, mais ça doit rester un moyen et non une fin. Je crois qu'on l'a déjà dit dans cette émission, mais on le répétera tant qu'il restera sur cette planète, une personne qui n'aura pas compris.
Alors là, bien dit, et on est déjà deux au moins à être d'accord.
Et ouais.
Je continue, car j'ai potentiellement de la matière pour une journée tellement j'étais énervé. L'interface est ni fait ni à faire. Je pourrais demander l'avis de Mywen, qui milite à Framasoft et qui travaille pour rendre les interfaces facilement utilisables et cohérentes. Mais j'ai trop peur d'être responsable d'une crise cardiaque que ce foutoir à boutons de Dropbox pourrait déclencher.
Ah mais oui, mais tu m'as dit que des boutons marketing étaient mélangés à des fonctionnalités de gestion de tes fichiers. Genre tu cherches à compresser un truc pour le télécharger et bim, on te suggère vivement de signer pour l'offre supérieure. Mais non, d'une pipe en bois, il n'y a personne dans cette boîte qui a une conscience et un respect des utilisateurs et utilisatrices sérieux.
Attends, c'est pas fini si avec ça. J'ai voulu télécharger des dossiers et là, rebim, vous avez essayé de compresser un nombre trop grand de fichiers. Pas d'indication claire de limite, donc il faut tâtonner pour trouver soi-même cette limite. C'est du génie, j'ai failli bouillir.
Oh, bah puis si on était suspicieux, on pourrait penser qu'ils font tout pour empêcher de partir de leur écosystème.
Mais non, que vas-tu penser là, voyons? Bon, après je te passe les fenêtres qui peuvent s'ouvrir intempestivement pour te suggérer d'envoyer tes photos dans le cloud. Enfin. Bah ouais, plus tu enverras des données, et plus ce sera compliqué d'en sortir. Surtout si tu ne peux compresser que 3 fichiers à la fois. Mais bon, on va me dire que je fais du mauvais esprit.
Oh, quel enfer. On pourrait tenter l'analogie avec un boyau dont les parois sont tapissées de peaux de phoque. C'est extrêmement difficile de faire marche arrière.
C'est ça. Dropbox, c'est un intestin grêle tapissé de peaux de phoque. Ce serait presque drôle si la réalité ne démontrait pas l'efficacité d'un tel système pervers. L'asso avait opté pour le service ouvrant 2 téraoctets de capacité et avait un besoin réel évalué au plus large à... 200 gigaoctets. Il y a un facteur 10 entre le besoin et le service utilisé. Et l'asso va même sans doute descendre ce besoin à 50 gigaoctets en pensant les usages de ces données. Par exemple, pour les vidéos, pourquoi pas un serveur PeerTube mutualisé avec son réseau, hein?
Bon, bref, faites comme cette association, engagez une réflexion sur votre transition numérique et vous verrez à moyen terme tous les bienfaits de cette démarche. Il y a désormais des ressources multiples pour vous aider et vous accompagner. Emancipasso, les chatons, Framasoft, les structures du libre qu'on peut retrouver sur l'agenda du libre, j'en passe et des meilleurs.
Et investissez dans la formation plutôt que dans des licences de logiciels privateurs de liberté. Les membres de l'asso vont monter en compétences et ça, c'est que du bon pour la structure. Sur ce, je vais aller farter du boyau et installer des pitons pour faciliter la remontée des structures de l'ESS. Par exemple, Nextcloud est un super piton pour sortir des clouds à valeur de données, tel le grand Sarlacc à valeur de Jedi.
Eh bien,
à tantôt, heureuse framarpenteuse de Framaspace.
Nextcloud, si je me trompe pas, c'est codé en PHP et JavaScript, pas en Python. Mais bon, je chipote. Allez, la bise, mon farteur de boyau préféré.
Nous sommes de retour en direct dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Nous venons d'entendre à cœur vaillant la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, place au sujet principal, les rencontres professionnelles du logiciel libre. Nous allons écouter Django par Mr. Smith. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Django par Mr. Smith. Ce titre est disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY 3.0. Nous allons passer au sujet suivant.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Et maintenant, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, une visite aux rencontres professionnelles du logiciel libre. J'y étais il y a 2 semaines, le 10 juin, et j'ai interviewé plusieurs participants et participantes que vous allez pouvoir écouter comme si vous y étiez. Cela se passait à Lyon, au sein des locaux de la métropole du Grand Lyon. J'ai pris le train, tôt le matin, depuis Paris, et j'ai retrouvé ma coéquipière, Françoise Conil, élue au conseil d'administration de l'April en 2024. Nous avons été accueillis par un petit déjeuner, et ensuite on a pu déambuler entre les stands des entreprises et des associations qui nous ont montré plein de choses très intéressantes sur comment installer et utiliser les logiciels libres et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec. Quand on est une entreprise, une association, une collectivité ou un organisme. Nous avons également assisté à des mini-conférences qui montraient des cas d'usage et des retours d'expérience. Ces rencontres sont organisées par PLOSRA, qui est une communauté des entrepreneurs du logiciel libre, et cette année était la 4e édition. Il y avait 21 exposants et une 20aine de mini-conférences. Sans plus attendre, rendons-nous sur place et écoutons. Alors, je suis Julie de l'émission Libre à vous, et je suis venue aux rencontres professionnelles des logiciels libres. Et je suis avec Philippe Scafoni.
Scafoni, presque.
Pardon, Scafoni.
Ouais, c'est pas simple, je sais. J'ai l'habitude, c'est pas grave.
Qui est membre de l'organisme qui a préparé cet événement.
Voilà, bah, je suis le président de l'association PLOSRA-Alpes, effectivement, depuis 3 ans maintenant.
Alors, pour les auditeurs de Libre à vous, pouvez-vous nous dire pourquoi est-il important d'organiser les rencontres professionnelles du logiciel libre?
Alors, les rencontres professionnelles du logiciel libre, c'est un peu l'action phare un peu pour notre association, je dirais au cours de l'année, hein, parce que c'est ce qui nous demande le plus gros investissement en temps humain et en moyens. Donc, pour nous, c'est un moment important parce qu'il manquait effectivement sur la région un événement dédié aux professionnels. On avait déjà les journées du logiciel libre, mais qui était plutôt sur le volet citoyen, le campus du libre, plutôt orienté étudiants. Je dirais enseignement supérieur. Puis il manquait effectivement un événement professionnel sur lequel on puisse venir, nous, acteurs de la filière, hein, puisque le PLOSRA-Alpes propre, je dirais, a pour membre des entreprises dont le métier est de mettre en place et de proposer des logiciels libres à leurs clients. Donc ça nous paraissait quelque part naturel de se dire il faut faire cet événement là en région. Il y a des événements de ce type là qui ont lieu à Paris, il y en a eu à Bordeaux, il y en a dans le sud de la France aussi, mais on n'avait pas d'événement comme ça un peu visible et récurrent surtout, hein, puisque là on en est à la 4e édition, et voilà, chaque année on essaie un petit peu de faire rentrer un peu plus cet événement dans les on va dire dans les habitudes de toutes les entreprises, des collectivités locales qui peuvent effectivement avoir besoin d'un interlocuteur professionnel dans le cadre de leur usage du logiciel libre.
Ok, oui, c'est vrai que c'est une, je trouve, très bonne démarche de faire un événement dédié aux professionnels. D'ailleurs, j'ai rencontré tout à l'heure dans le salon un monsieur qui est venu expressément du Cameroun.
Oui.
Voilà, pour faire une démarche d'implémenter des logiciels libres dans son entreprise qui est un média. Mm-hmm. Voilà, vous avez vu, je vois.
On l'a vu.
Oui. Merci pour cette présentation. Et du coup, cette année, donc après ces 4 années, donc vous m'avez dit.
C'est la 4e édition.
Voilà, 4e édition. Mm-hmm. Donc, quelles sont les nouveautés, les modifications que vous avez apportées?
Alors, chaque année, on peaufine un petit peu plus l'événement. On avait l'an passé, on avait mis en place effectivement un flux de conférences. C'est-à-dire qu'avant, on avait plusieurs conférences en même temps, mais du coup, les gens s'éparpillaient, ils hésitaient, ils allaient à l'une et pas à l'autre. Et des fois, ils étaient déçus de pas avoir vu certaines conférences parce qu'elles avaient lieu en même temps. Donc là, en fait, on a pris un parti pris de faire des conférences alors très courtes, puisque là, cette année, on a même réduit à 15 minutes le temps de ces présentations. L'idée, c'est effectivement 15 minutes de présentation, il n'y a pas de questions-réponses. Mais les personnes qui sont intéressées, qui veulent plus de détails, peuvent aller après effectivement sur la partie exposant, rencontrer le conférencier, échanger avec lui, et puis là prendre le temps effectivement de poser toutes ces questions et d'avoir les réponses qui vont avec. Voilà, donc on a densifié encore un peu plus cette année le nombre de conférences. On verra l'an prochain si on garde ce format-là ou voilà.
Oui. Alors. Pour parler un peu plus du libre, comment, de votre point de vue ou de celui de Plocera, percevez-vous le contexte économique et politique autour du logiciel libre ?
Alors, sur le plan économique, on est une filière. Alors, on n'a pas pu encore faire de grande enquête, entre guillemets, mais on aimerait bien en faire une sur la région prochainement. On sait qu'au niveau national, c'est une filière qui se développe fortement. Plus vite, on va dire, que la filière du numérique traditionnel, la société de services. Donc on a beaucoup de structures qui sont en croissance continue, régulière. Et quand on regarde chez nos membres, on voit bien que ces structures-là se portent bien, se développent bien. C'est pas forcément des structures qui vont générer des millions et des millions de résultats, parce qu'on est sur un modèle économique où effectivement on vend avant tout de la prestation, on vend pas de la propriété intellectuelle ou de la rente, donc ça permet pas de dégager autant de marge que ce que peuvent faire nos confrères des logiciels propriétaires. Mais toujours est-il qu'on arrive effectivement à travers nos modèles à avoir une rentabilité et d'être viable en tant qu'entreprise, de pouvoir recruter, payer nos salariés, etc. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire la filière se porte bien. Sur les aspects alors politiques, c'est un peu plus moi l'évolution que j'ai vue entre guillemets ces 10 dernières années, alors plus par rapport au secteur public et à son appétence pour le logiciel libre, je trouve qu'on est passé de, il y a 10 ans, le discours qu'on pouvait recevoir, c'était nous, vous savez, on est ni pour ni contre. Voilà, ok, bon, mais vous restez sous Microsoft, oui, ok. Alors qu'aujourd'hui, les discours qu'on peut avoir et qu'on peut entendre, notamment ce matin à l'ouverture de la plénière, que ce soit de la ville de Lyon ou de la métropole, sont des discours où le logiciel libre devient à des niveaux de plus ou moins important, mais devient une exigence quelque part pour des questions de souveraineté, de maîtrise de l'informatique et de ne plus être entre guillemets un peu prisonnier de changements commerciaux ou de décisions arbitraires de certains éditeurs. Donc il y a une vraie évolution, je dirais, favorable aujourd'hui pour moi au logiciel libre, même si tout n'est pas gagné, même s'il reste encore des combats à mener sur l'ergonomie des logiciels, sur leur facilité d'utilisation. On le disait ce matin aussi sur l'accompagnement au changement. C'est qu'effectivement, on change les habitudes des gens. C'est plus Outlook, c'est un autre logiciel. Donc voilà, c'est un travail, ça reste un travail important à mener.
Merci beaucoup, Monsieur Scofoni, pour quand même ce message que j'ai perçu positif et motivant pour les acteurs du logiciel libre et les personnes qui veulent entrer dans le logiciel libre.
On est très motivés.
Oui. Alors, je vais interviewer le maximum d'intervenants dans ce salon et merci beaucoup de l'avoir organisé.
C'est moi, merci.
Je suis maintenant avec Jean-Michel Armand de l'entreprise iBird. Cette entreprise est créatrice du logiciel Crème. J'adore ce nom.
Merci.
Alors, Crème est un logiciel, est un CRM libre. Alors, un CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client.
Oui, exactement.
Jean-Michel, donc, vous êtes à titre personnel adhérent à l'April depuis 21 ans.
Oui, ça commence à faire.
Oui. Et au titre de iBird depuis quand même au moins 15 ans. Donc, merci beaucoup. Pourquoi c'est important pour vous donc d'adhérer à l'April ?
Alors moi je suis libriste depuis très longtemps, j'ai presque voilà depuis mes années lycée on va dire, et donc quand je suis arrivé en école en études supérieures, j'avais envie de on dirait que les années 2000 n'étaient pas aussi propices au logiciel libre que maintenant, et à un moment ou à un autre ça me semblait important de faire des choses de mon côté, donc d'avoir une démarche militante active, mais aussi autant que possible de soutenir les assos qui militaient. Donc du coup, clairement, logiciel libre France, April. Donc du coup, voilà, 2003, première adhésion April.
Et nous pourrions parler du modèle économique du libre et le modèle économique des entreprises comme vous. Qui vivent du logiciel libre et ce modèle est-il en train de changer? Comment est-ce que vous voyez le futur? Alors par ailleurs, tout à l'heure j'ai interviewé Monsieur Scofoni de l'organisme Plocera qui a eu un discours assez positif et motivant même je dirais en parlant de développement et de croissance du contexte économique du logiciel libre. Donc vous, comment voyez-vous le futur de cette économie?
Oui, alors c'est vrai que je serais assez d'accord avec Philippe. On va dire que même si on a encore un peu des freins, il y a quelques années, il y avait souvent, on va dire, une frayeur des entreprises d'utiliser le logiciel libre, etc. Ça s'est pas mal réduit. Bon, il y a toujours de temps en temps des petites frictions, des petites mais vous faites du logiciel libre, est-ce que c'est... Mais on a enfin passé l'étape. Et donc, on a de plus en plus de gens de plus en plus de projets qui sont en demande spécifiquement de logiciel libre. D'ailleurs, dans les appels d'offres publics, souvent c'est avec du logiciel libre, c'est un critère obligatoire. Et voilà, donc on a vraiment une vraie appétence qui s'est créée chez nos clients ou chez nos futurs clients pour avoir du projet en logiciel libre, parce que du coup à un moment ou à un autre ils ont pu voir que ça marche, ils ont pu voir que les projets fonctionnent, ils ont pu voir que des partenaires utilisent des logiciels libres et que ça fonctionnait bien. Potentiellement ils ont eu des mauvaises expériences avec du logiciel propriétaire et donc du coup ils n'ont pas forcément envie de reproduire ça. Ça peut avoir, nous dans notre branche on a souvent des entreprises qui en rachètent d'autres, donc des gammes de logiciels qui s'éteignent et où ils ont juste pas la main, et donc ils ont envie de se dire ok, on veut avoir plus de sécurité, plus de l'accès au code source, c'est quand même important, et donc du coup je pense qu'il y a une vraie alors on va pas dire une explosion, mais il y a une vraie demande, il y a vraiment des gens qui se disent ok, on veut du libre et ça devient un vrai critère. Il y a aussi un autre. Alors, on va dire que c'est un peu plus à la marge, mais il y a de plus en plus des vrais critères de démarche RSE des entreprises, etc. Et j'ai envie de dire que de par leur appétence pour le logiciel libre, des choses comme ça, les entreprises qui font le logiciel libre sont souvent plus réceptives et plus en avance sur tous ces points de démarche RSE. Et donc, donc c'est du indirect, mais ça aide aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même mouvance là-dessus.
Pouvez-vous juste nous préciser qu'est-ce que c'est RSE ?
Alors, c'est tout ce qui est... C'est le...
Marche sociale.
Oui, social et le R, je ne sais plus, mais oui. C'est social et écologique, je crois, ou social et... c'est tout ce qui va être pour dire... c'est toutes les choses qu'on va mettre en place sur... Ça va être très, très large, mais sur l'égalité des salaires, hommes-femmes, sur la parité, sur... Et puis, c'est aussi le fait d'avoir... une infrastructure verte, de faire des démarches pour réduire ses émissions de carbone ou autre. Voilà.
Oui, je pense que d'ici quelques années, il y aura des objectifs RSE à atteindre pour les entreprises obligatoires. Et du coup, le logiciel libre et l'économie du libre pourra aider à atteindre ces critères.
Oui, j'ai un peu l'impression que sur ces sujets-là, on est parfois un peu en avance.
Oui. Voilà. Oui. Donc, de ce que j'entends ici au salon, j'ai l'impression qu'il y a un petit switch, comme vous parlez de frayeur du logiciel, et il commence à y avoir les mentalités commencent à changer, une société qui se crée.
Il y a quand même. On va dire, ça fait plus de 20 ans, donc.
Oui,
heureusement, ça a pris du temps, je pense qu'il y a. Puis il n'y a qu'à le voir sur le salon qui se monte, qui est un peu plus grand tous les ans, où il y a des gens qui viennent, il y a des événements logiciels libres, il y en a.
Les politiques qui s'emparent.
Mais donc du coup, je pense qu'on est sur un cercle vertueux pour continuer à utiliser des expressions qui vont bien.
Merci beaucoup, Jean-Michel Armand. Et on va continuer à interviewer les entreprises dans les rencontres professionnelles.
Et bien, merci à vous.
Je suis maintenant avec Marie-Jo Kopp-Castinel de l'entreprise OpenGo, spécialisée dans la bureautique libre, mais Marie-Jo va nous en parler. Vous êtes aussi membre... vous êtes donc membre de l'April. Et je suis aussi également avec Damien Renoux de l'entreprise Bâtisseur Numérique, qui va donc interagir avec Marie-Jo Kopp-Castinel parce qu'ils ont des sujets en commun. Alors Marie-Jo, pourquoi dans un premier temps avoir adhéré à l'April ?
Parce que je défends le logiciel libre depuis à peu près 2003, où je m'étais engagée dans le projet OpenOffice. Et l'April est arrivé à peu près à ce moment-là et qu'on se voyait sur tous les salons avec Fred et que du coup c'était évident d'adhérer à l'April qui pour moi est essentiel pour défendre le libre.
Et donc dans vos activités, quelle est la part des collectivités, des entreprises qui utilisent des solutions bureautique libre, quels sont les avantages à utiliser ces solutions?
Alors OpenGo est en effet spécialiste du poste de travail libre et notamment de l'accompagnement aux migrations vers des suites bureautiques libres, notamment LibreOffice. Les avantages, beaucoup dans les collectivités, mais quelques entreprises également, mais principalement dans le monde collectivité. Les avantages sont multiples, on ne va pas résumer en 5 minutes les avantages du libre, mais bon, il y a toujours la notion de souveraineté, il peut y avoir une question de développement durable, tout un tas de choses comme ça. Après, les difficultés, c'est qu'on touche au poste de travail, donc il faut un accompagnement pour accompagner les utilisateurs, puisque c'est sensible, puisqu'on touche au poste de travail. Donc on change les habitudes de quelqu'un. Et donc OpenGo a également une plateforme e-learning complète, alors sur LibreOffice notamment, mais pas que, sur la plateforme Chamilo. Et je laisse la parole à Damien, qui est Monsieur Chamilo.
Oui, merci Marie-Jo. Moi Damien Renoux, société Bâtisseur Numérique, et donc je suis membre de l'association Chamilo, qui est une association européenne.
Moi aussi.
Marie-Jo aussi est membre de l'association. Et donc Chamilo, c'est quoi? C'est une plateforme donc pour favoriser et diffuser l'apprentissage en ligne, la retransmission des compétences, depuis 2010, donc depuis 14 ans. Et nous avons aujourd'hui 37 millions d'utilisateurs. Et en France, la plateforme commence à s'installer doucement dans les régions et dans les écoles, donc ce qui nous fait un grand plaisir. Puisque c'est le challenger un petit peu de la plateforme Moodle, qui est bien connue, qui est une fondation australienne. Et donc le fait qu'il y ait une solution européenne qui revient en avant nous fait extrêmement plaisir.
Et alors du coup, les bâtisseurs numériques et même OpenGo, à quoi ça vous sert, Chamilo? Qu'est-ce que vous en faites? Comment elle fait partie de votre activité?
Alors, la plateforme Chamilo, en fait, permet de diffuser de la documentation pédagogique et des modules de formation auprès d'un public d'élèves, de stagiaires ou de professionnels en entreprise. Donc, ça permet de faire le lien avec la formation en présentiel à travers des modules d'auto-formation ou pour compléter un petit peu la formation, en fait, qui existe déjà sur le terrain.
Ok, merci. Et vous, donc, à Bâtisseur Numérique, quelle est votre activité principale?
Alors, mon activité principale, c'est d'installer des plateformes Chamilo. De rajouter des fonctionnalités à Chamilo pour D'accord. que les professeurs, les formateurs et nous-mêmes puissions fabriquer des modules très facilement. Donc des modules qui sont proches des utilisateurs, donc du terrain, principalement.
Okay. Merci Damien Renoux. Madame Marie-Jo Kopp-Castinel, Marie-Jo, libre à vous est sensible à la place des femmes dans le monde du logiciel libre. Et donc, comment ressentez-vous donc la place de la femme dans le logiciel libre? Donc, vous m'avez fait part.
Alors, la place de la femme essentielle dans la société en général, oui. Plus que jamais aujourd'hui. Et en effet, dans le logiciel libre, on est très peu de femmes. Alors, oui. Il y en a beaucoup à l'April quand même, de plus en plus, avec une présidente oui. femme. Mais malheureusement, et on se pose la question, pourquoi le logiciel libre particulier? Déjà, l'informatique. Il y a moins de femmes. Mmh. Mais pourquoi le logiciel libre, on n'arrive pas à avoir plus de femmes qui s'impliquent? C'est une vraie question qu'on se pose. Je suis souvent la seule femme dans toutes ces réunions.
Oui,
voilà, notamment à Plocera.
À Plocera, notamment, voilà. Et puis à d'autres endroits aussi. Oui. Bon, il y a des assos comme l'April ou l'Aldil à Lyon, il y a quand même de plus en plus de femmes. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir plus de femmes qui s'investissent en termes de bénévoles dans ces trucs-là?
Oui.
Voilà. Okay. Donc, on est sensible aussi.
Ben, merci bien d'avoir consacré 5 minutes juste avant vos conférences, la journée sur les chapeaux de roue. Merci Marie-Jo et Damien.
Merci Julie.
Je suis maintenant avec Salomé Yaya Chérif de la coopérative Les Tilleuls. Alors Salomé, pourquoi une organisation en mode coopérative, et d'ailleurs qu'est-ce qu'une coopérative?
Alors la société donc coopérative, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier parce que chaque salarié est actionnaire de la boîte. Okay. L'entreprise appartient à tout le monde.
Okay.
Ce qui va nous distinguer, c'est qu'on va prendre les décisions tous ensemble. On fait des assemblées générales régulièrement et tout le monde peut participer aux décisions de l'entreprise, donc une personne égale une voix. Ça permet d'avoir une hiérarchie qui est assez plate, et surtout on a choisi ce modèle parce que ça nous permet d'impliquer vraiment les coopérateurs dans la vie de l'entreprise. On est aussi très impliqué au niveau social et on a beaucoup d'avantages en interne. On a par exemple développé le congé menstruel, mis en place des congés exceptionnels et plus de flexibilité. Et on est aussi acteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, donc on a aussi un projet social qui est assez fort.
Ok, donc vous c'est bien, vous accordez une place à la femme.
Oui, hein, et très importante.
Voilà. Et alors, les Tilleuls, qu'est-ce que vous faites concrètement? De quoi s'agit-il? Quels sont vos membres? Quelles sont les activités?
Alors, on accueille tout type de clients, tout type d'entreprises, peu importe la taille ou la forme, dans le développement d'applications web et mobiles. Donc on peut soit faire du développement pur, soit des audits, du conseil. On est aussi un organisme de formation, donc on est certifié Calliope. Et on est aussi sur tout ce qui est partie SRE, développement, infrastructure, etc. Donc on les accompagne à développer leurs projets, que ce soit de A à Z ou en intégrant des équipes.
D'accord. Alors, donc si je comprends bien, vous avez des associés qui sont membres de la coopérative.
C'est ça.
Et vous, ensemble... vous avez des projets donc d'accompagnement de création
de projets web. Voilà, en fait, c'est web. On est 70 actuellement et tous nos devs sont répartis en missions. Donc ça peut être des missions qui sont longue durée ou des projets qui sont très courts et chacun participe à différents projets en fait.
D'accord. Et alors. Donc la place du libre dans vos activités?
Alors il y a une place assez importante. Nous déjà, on la structure Les Tilleuls en elle-même, on est membre de la symphonie, de l'accord team symphonie. Donc on participe beaucoup au développement du langage, donc on le maintient et on contribue. C'est la même chose, on fait partie de la PHP Foundation. Et en interne, on a développé 2 logiciels libres, donc API Platform et FrankenPHP. Qu'on utilise auprès de nos clients également. Donc on participe non seulement à contribuer à des logiciels libres de base, mais aussi à en créer nous-mêmes et à les utiliser dans les projets clients.
Et donc vous m'avez dit que vous incitez les développeurs à
contribuer à l'open source.
À contribuer à l'open source.
C'est ça, exactement. On a beaucoup de coopérateurs qui sont très actifs dans le monde de l'open source. Donc, que ce soit PHP, Symfony, mais aussi sur du JavaScript, pour aider à améliorer les logiciels libres et permettre à chacun d'avoir accès à des améliorations qui peuvent bénéficier à tous.
Ah, merci beaucoup, Salomé. C'est une belle aventure, hein, une grande coopérative. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je suis maintenant avec Claudine Chassagne de la ville de Saint-Martin-du-Riage, une ville qui se trouve dans le département de l'Isère. Donc, Madame Chassagne vient de faire une conférence aux rencontres professionnelles du logiciel libre. La conférence vient de se terminer, donc je suis venue voir Claudine directement pour lui poser quelques rapides questions. Merci d'avoir accepté. Alors, dans votre collectivité, de quelle manière êtes-vous impliqué dans le logiciel libre et quels usages faites-vous du logiciel libre actuellement ?
Oui, bah donc depuis, je suis élue depuis 2014 en charge, bon, entre autres, du numérique. Et donc en 2014, lorsque je suis arrivée, j'ai tenu à mettre en place une politique d'une migration vers le logiciel libre. Donc avec priorité au logiciel libre, format ouvert, bon, etc. Et adhésion justement à l'association Adulacte qui accompagne les collectivités. Donc en 2014, et donc là j'ai eu un DSI qui a décliné cette politique en projet. Et donc on a mené un certain nombre de projets jusqu'à la migration vers la bureautique libre en fin de mandat 2020. 2020 donc j'ai été réélue. Donc je suis aussi toujours en charge du numérique avec d'autres casquettes. Et là, donc, je suis partie sur une politique plutôt du numérique responsable et inclusif, justement, puisqu'on a besoin d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique. Et donc le logiciel libre continue à nous aider beaucoup là-dessus. Pour la sobriété, par exemple, la sobriété numérique, justement, en allongeant la durée de vie des terminaux, et puis en mettant en place des logiciels simples pour accompagner les utilisateurs, voilà.
Merci. Je vois que depuis 10 ans, en 2014, c'est admirable. Voilà.
Merci. Voilà. C'est pas toujours facile, non. Parce que les équipes changent, oui. Les agents changent, donc il faut tout le temps former, accompagner, oui. Expliquer, voilà. et bien montrer les enjeux, oui. Les enjeux, oui. Politiques, les enjeux techniques.
Mais même si les équipes changent, vous avez évangélisé ceux qui partent, peut-être.
J'espère que, oui. Ça perdurera. Voilà.
Et donc je vous ai pas demandé. Qui vous étiez dans la ville, une élue
Alors, ouais. Une élue, enfin, au niveau étiquette,
non. Quel est votre poste, votre rôle dans la ville,
je suis adjointe en charge de l'agriculture, voilà. L'économie locale, okay. Le tourisme. Adjointe, et donc, okay. Voilà, c'est ça, okay. Le numérique.
D'accord.
Voilà.
Merci.
Et donc, je suis une ancienne DSI, dont j'ai été DSU à l'université, okay. Dans une grande collectivité.
D'accord. Ok.
Voilà.
Vous savez de quoi vous parlez.
Oui. Et donc, on va peut-être venir sur le sujet,
oui,
des femmes.
Voilà.
Donc, moi, j'ai fait des études d'informatique qui remontent à 1975, 76, d'ingénieur. Ouais. Et donc, j'ai toujours travaillé en informatique. Je suis un peu un dinosaure de l'informatique, comme je disais à mes étudiants. Et alors, au fur et à mesure, donc ça fait presque 45 ans, mais je trouve que les femmes sont toujours aussi peu représentées dans le milieu informatique en général. Et je pensais que dans le logiciel libre, parce qu'il y avait vraiment des enjeux éthiques, j'allais en trouver un peu plus. Mais non, ça reste quand même un milieu un peu de geek, développeurs, qui parlent beaucoup développement entre eux. Donc, chaque fois, il faut les remettre un peu sur le bon chemin. Mais voilà, je trouve... Et ici, ça m'a frappé là, en arrivant ce matin. Les femmes, on les compte sur le doigt de la main.
Il y a encore des efforts à faire.
Oui, oui. Mais dans les deux sens, je pensais à la fois convaincre les filles que c'est intéressant, oui. Que c'est pas forcément que de la technique et que du développement, mais qu'on peut faire des choses très intéressantes avec justement les logiciels libres et puis avec l'informatique. Et puis après aussi, peut-être que les hommes cèdent un peu la place aussi. Bon, voilà, donc c'est en termes de gouvernance, c'est vraiment un équilibre à trouver.
En tout cas, votre parcours est très inspirant.
Merci.
Merci.
Merci bien.
Merci bien pour cette interview.
Merci.
Merci. Je suis maintenant avec Clément Houdot de l'entreprise Vortex, spécialisée dans l'infrastructure. Bonjour Clément.
Bonjour, merci de m'accueillir. Donc effectivement, Vortex, société d'expertise en open source, principalement infrastructure, tout ce côté serveur. Voilà, virtualisation, messagerie, base de données, identité.
Clément, pourquoi est-il important que Vortex adhère à l'April ?
Alors, on est adhérent depuis le début de Vortex, et puis les responsables de Vortex étaient à l'April également, et j'y suis à titre personnel également membre de l'April. Pour nous, c'est très important que l'April continue à faire le travail de surveillance politique et aide à infuser en fait le logiciel libre dans la société, que ce soit pour les particuliers, les associations et également les entreprises.
Et donc, quel est le rôle alors de Vortex dans l'écosystème du libre ?
Alors, on est une société de services, c'est-à-dire qu'on va proposer des services, du support, de la formation ou même de l'hébergement à nos clients. Mais on a vraiment à cœur d'être au sein de l'écosystème du logiciel libre, puisqu'on est nous-mêmes des contributeurs d'un certain nombre de composants. Les gens qui sont chez nous ne vont pas seulement répondre aux besoins de nos clients, mais on va aussi essayer de faire que ces besoins-là et les financements que nos clients apportent à Vortex viennent bénéficier directement logiciel. Voilà, donc on est notamment des principaux contributeurs de Lemon LDAP NG, LSC, LDAP Toolbox, et voilà, un certain nombre de composants complètement open source.
Merci Clément. Alors parlons du Cyber Resilience Act.
Oui.
Alors vous m'avez décrit quel en était l'impact, qu'est-ce que c'était ? Pouvez-vous
en parler aux auditeurs ? Oui, c'est quelque chose effectivement qui est arrivé il y a quelques mois sur nos écrans. Et donc il y a eu beaucoup de discussions. Et puis nous, via le CNLL, on est aussi membre du CNLL, on a essayé d'influer un peu la politique européenne pour que le CRA, donc le Cyber Resilience Act, n'ait pas trop d'impact sur l'écosystème de l'open source. La difficulté de cette mesure du CRA est que effectivement, il peut y avoir un impact pour les petites sociétés comme nous qui allons proposer du logiciel libre à nos clients, d'avoir trop de lourdeur administrative et trop de d'engagement en fait à tenir pour continuer à faire notre métier, sachant que le logiciel libre est de nature sans garantie. Donc c'est là où on est très vigilant. Tout n'est pas encore réglé et écrit. On est en train de mettre en place ce qu'il va falloir faire pour qu'on continue à être dans la légalité et continuer à pouvoir travailler dans le logiciel libre en respectant ces normes.
Merci pour ces éclairages. Alors Clément Oudot, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Par ailleurs, je sais que vous êtes chanteur dans le groupe Capitaine.
Captain, voilà, Captain. Tout à fait, c'est mon nom de scène.
Voilà, donc nous diffusons sur Libre à vous.
Je vous en remercie. Musiques. Plusieurs musiques, tout à fait.
Pour continuer à parler de la musique et du libre, pourquoi avez-vous choisi de diffuser vos musiques sous une licence libre de droit ?
C'est un engagement personnel, donc c'est effectivement. Depuis 20 ans, je travaille dans le logiciel libre et pas uniquement pour des aspects techniques, mais vraiment aussi pour des aspects humanistes et de partage. Et comme en loisir, je fais de la musique. Naturellement, je me suis dit qu'il était bien aussi de partager avec le plus grand nombre. Donc toutes les musiques sont sous licence art libre, Creative Commons. Le plaisir de faire des concerts de temps en temps dans un certain nombre de manifestations du libre. J'étais au JDLL il y a quelques jours pour faire un concert et j'espère pouvoir intervenir dans d'autres conférences très bientôt.
Merci beaucoup Clément et bon salon à vous, bonne rencontre à vous et nous allons écouter votre musique.
Merci.
Nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter le Musée d'air contemporain par Captain, que vous avez entendu dans les interviews. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire. D'air contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos. Et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça chouette. Avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Puis moi je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteille d'eau claire, sachet de terre et bonbonne d'air. Fruits et légumes en parfum. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau.
Nous venons d'écouter Le Musée d'Air Contemporain par Captain. Ce titre est disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC by SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous sommes toujours au RPLL, petit nom pour les rencontres professionnelles du logiciel libre, juste après la pause déjeuner. Claudine Chassagne, élue à la ville de Saint-Martin-du-Riage, en Isère, et qui a participé à la table ronde Logiciels libres et collectivités locales, nous a offert et dédicacé la nouvelle édition de son livre « Migrer son système d'information vers les logiciels libres, un défi politique et technique pour les collectivités locales ». Écoutons maintenant les interviews de l'après-midi. Je suis toujours aux rencontres professionnelles du logiciel libre. Nous avons passé la pause déjeuner qui était très sympathique, où nous avons beaucoup discuté les uns et les autres, très intéressant. Et maintenant, je suis avec Franck Brunet de l'entreprise DBM Technologies, qui est spécialisée dans l'infogérance. Bonjour Franck, vous êtes adhérent à l'April alors depuis plus de 15 ans. Pourquoi c'est important pour vous d'adhérer à l'April ?
Alors, effectivement, sur la durée, ça fait très longtemps puisque j'ai plus le souvenir et j'ai fait partie, donc en tant qu'exposant, des premières Linux Expo à l'époque au CNIT, pardon, et c'est à ce moment-là que j'avais adhéré à l'April. Pourquoi l'April ? Parce que ben, dans notre vie tous les jours de production, on est très content d'avoir, avec l'April et d'autres, obtenu certaines libertés et certaines ouvertures du logiciel. Mais en fait, c'est une liberté qui se défend tout le temps. Et il faut effectivement, de la même façon que les gens du propriétaire dépensent des millions à faire du lobbying pour fermer les codes et fermer les accès et mettre des tickets, ce qu'on appelle des tickets d'entrée, par exemple, sur la comptabilité avec des millions d'euros pour empêcher des acteurs novateurs et fermer des marchés, donc empêcher les acteurs de se lancer dedans, et bien il est hyper important qu'on ait des gens qui défendent ces libertés à la fois pour la société civile d'une part et aussi, indirectement aussi, ils le font pour les professionnels que nous sommes. Voilà, donc ça c'est pour moi une façon de dire je ne peux pas moi-même investir plus de temps, j'ai que 24 heures par jour, donc je ne peux pas effectivement moi aller militer, faire du lobbying et aller voir les politiques et leur expliquer l'intérêt pour l'humanité et les Français de toute manière d'avoir du libre le plus possible autour de nous, que ce soit en informatique d'ailleurs ou en médicaments ou d'autres, voilà, d'expliquer effectivement pourquoi il n'y a pas de cohérence à essayer de faire voter des brevets logiciels qui sont une hérésie absolue. Voilà. Je prends toujours l'exemple du tire-bouchon. Breveter un logiciel revient à breveter l'idée du tire-bouchon. Et ça, c'est pas entendable pour l'humanité. C'est-à-dire que vous pouvez, tout le monde a le droit de déboucher une bouteille et vous pouvez imaginer tout un tas de processus différents et inventer des tire-bouchons révolutionnaires. Et à la limite, vous avez le droit de breveter, pas dans un temps, ce tire-bouchon parce que ça vous a coûté beaucoup d'énergie, ingénierie, et donc la société vous protège le temps de rentabiliser cet investissement. Par contre, l'idée même de déboucher un tire-bouchon, une bouteille, c'est ça appartient à l'humanité. Et ben l'informatique, c'est exactement pareil en fait. L'informatique, c'est juste des codes, hein, des boucles, for i égale 1 to n, while, des choses comme ça. Et c'est ces petites briques élémentaires, on peut considérer ça comme un langage, comme le français. Voilà. Et donc breveter du logiciel revient à breveter l'idée du tire-bouchon ou la langue française. Donc ça, il faut le combattre de façon absolue. Parce qu'on peut faire des compromis sur plein de choses, et vous verrez plus tard quand vous allez me poser d'autres questions que je suis obligé dans la vie de faire des compromis comme tout le monde, hein, rien ni tout blanc ni tout noir, mais il y a des principes même comme la liberté, l'égalité des hommes-femmes, etc. C'est des choses qui ne sont pas acquises, il faut les défendre, et comme moi j'ai pas le temps de le faire, et je contribue à travers mon adhésion à l'April à donner un peu d'argent qui permet à l'April d'aller défendre pour nous tout ça. Voilà.
Merci beaucoup Franck pour votre vision extraordinaire de la contribution apportée par l'April. Ça nous fait chaud au cœur. Comment voyez-vous l'évolution du logiciel libre dans les 5 à 10 prochaines années ?
Alors, c'est très compliqué parce que on peut difficilement prédire l'avenir. Ce qui est certain, c'est que il faut se souvenir du passé pour aller dans l'avenir. Et dans le passé, c'est malheureux à dire, mais c'est pas souvent et pas tout le temps les meilleures technologies qui survivent. Hein, on l'a vu avec le magnétoscope, les fameux formats Betacam, etc. Et ben là, c'est pareil. On a les meilleurs codes parce qu'ils sont ouverts, qu'ils sont travaillés, qu'ils sont sécurisés par des millions de personnes de façon indépendante pour éviter des backdoors, des intrusions de gouvernements extérieur, mais à côté de ça, on a aussi des gens qui gagnent énormément d'argent à fermer le code. Et donc ces gens-là, ils peuvent faire du lobbying pour justement essayer de discréditer le logiciel libre. Donc c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que les gens, donc moi j'aimerais et je vais contribuer dès que je pourrai plus sur du code, parce que j'aurai un peu plus de temps. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ce qui est certain, c'est que j'admire tous les gens qui ont réussi, ça peut même être des gros, hein. Même des fois je crache pas que sur les gros. Google par exemple, c'est un très beau contributeur au noyau Linux, et ça je ne le cache pas. Et donc moi je rêverais d'avoir assez, effectivement, de dégager assez de bénéfices dans notre entreprise pour pouvoir encore plus contribuer avec du code. Aujourd'hui, on le fait, notre contribution, elle est beaucoup plus sur, on va dire, de la pédagogie, sur la transformation de gens, l'accompagnement et la défense, dès que je le peux, des idées libres et l'explication de pourquoi c'est mieux un code ouvert intrinsèquement qu'un code fermé, etc. Donc, pour revenir à la question qui est de savoir l'avenir du logiciel libre, effectivement, c'est comme la démocratie, un combat de tous les jours qu'on doit défendre, à la fois politique et économique, parce qu'effectivement, il faut que nos entreprises, malgré tout, pour pouvoir payer des salaires à la fin du mois, il faut faire rentrer des commandes et honorer des commandes. Donc, les entreprises qui sont dans le monde propriétaire, en fait, ils ont tellement d'argent qu'ils ont des capitaux pour faire du lobbying, de la publicité. Par exemple, moi qui ai des expériences antérieures en Windows, en administration système et en Linux, et qui continue un peu à avoir les deux mondes, enfin, il y a pratiquement un rapport 1 à 10 d'efficacité entre un admin 6 Linux et un admin 6 Windows. Mais Microsoft va essayer de faire une sorte de mayonnaise en faisant croire aux gens que le TCO, donc le Total Cost of Ownership, d'une solution Microsoft est meilleur marché, ce qui est totalement faux en fait. Voilà. Néanmoins, eh ben, comme je l'ai dit, ça, même si technologiquement parlant, c'est une évidence pour moi que c'est une solution d'avenir pour la planète et en tout cas aussi pour les Français. Elle va se défendre tous les jours et donc je ne peux pas prédire aujourd'hui qu'on va réussir. Mais j'y travaille comme tous les gens qui sont ici et bon, ça fait du chemin. Voilà, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de route.
Je vous remercie beaucoup, monsieur Franck Brunet. Je rappelle le nom de votre entreprise qui est DBM Technologies. Et j'ai trouvé votre vision vraiment inspirante, je dirais, intéressante, et vous avez et une belle vision stratégique. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Je suis allée maintenant à la rencontre de Tom Grand-Georges de Xivo. Bonjour Tom.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Xivo ?
Oui, bah alors déjà je remercie de m'interviewer. Alors Xivo, non, c'est un logiciel, c'est-à-dire que c'est un logiciel de centre d'appel, de téléphonie, quoi, TOIP. Et l'entreprise qui l'édite, c'est AvonCall. Donc on est la première solution de TOIP open source française, souveraine. Et notre particularité, c'est qu'on développe notre solution et on l'intègre directement chez nos clients.
Alors TOIP, c'est ce que ça veut dire, c'est de faire de la téléphonie sur du réseau informatique. C'est pas de la téléphonie avec des commutateurs télécom type France Télécom comme autrefois.
Exactement.
C'est vraiment la téléphonie sur les
sur IP.
Voilà, sur les tuyaux modernes.
Exactement.
Voilà,
exactement.
Internet quoi.
Voilà. Et ouais. Et nous maintenant, on a développé Xivo pour avoir une solution aussi de softophonie. Alors je sais pas si ça vous dit
quelque
chose.
D'accord. Donc c'est le téléphone sur l'ordinateur au lieu qu'on ait un téléphone physique.
Plastique, nous on appelle ça le téléphone plastique.
Téléphone
relié au casque et on peut répondre directement sur l'ordinateur.
D'accord. Donc c'est l'entreprise Xivo qui a créé ce logiciel.
Qui a créé softphone, oui.
Et c'est un softphone libre ?
Oui, open source.
Okay.
Bah, évidemment, open source. Sinon on ne serait pas là.
Ok, donc, alors quel type de client ? Est-ce que ce sont des petits, des grands ? Quels sont les types de clients, les domaines qui utilisent donc vos solutions de logiciels libres de téléphonie sur l'internet, sur l'informatique ?
Sur IP. Alors nous, globalement, en fait, on va chercher tous les clients, que ce soit des PME, des ETI, des grands comptes, etc. Okay. Mais nous, on se spécialise Xivo AvonCall, c'est-à-dire que moi, on va aller chercher des postes allant au minimum à 150 utilisateurs. C'est-à-dire qu'on spécialise vers des ETI, des grands comptes. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est là où on est le plus pertinent, c'est là où on est le plus fort. Parce que comme on fait du développement spécifique, c'est trop compliqué d'aller chercher des petits comptes. Donc nous, on préfère aller chercher des gros comptes. Mais évidemment, on ne laisse pas de côté les petits comptes, les PME, etc. Nous, on a des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps qui vont intégrer Xivo vers des PME. Mais donc on s'occupe des grands comptes et surtout on est très pertinent sur le secteur du public, donc les universités, les mairies, les communautés, les conseils départementaux, etc. Le public vraiment c'est 80% de nos clients à peu près.
D'accord. Et du coup, ça fait longtemps que le public se tourne vers des solutions de téléphonie de type libre Xivo ?
Alors, c'est-à-dire, je pense que... Alors, moi, je suis un peu jeune, on voit pas, mais je suis un peu jeune. Alors, je pense qu'au début, les collectivités, comme tout le monde, sont allées voir des solutions en SaaS qui étaient fermées, comme Microsoft, etc., parce que ça fonctionne. Mais maintenant, on se rend compte aussi, pour des questions de coûts et de souveraineté, surtout,
voilà.
Que c'est plus compliqué d'aller faire confiance à des entreprises, quand même Microsoft, pour pas les citer. Et maintenant, il y a un petit retour en arrière où les collectivités, et même un petit peu, tout doucement, mais ça commence, le secteur privé commence à se tourner vers des solutions open source pour équiper leurs collaborateurs de téléphonie, mais pas que, parce que là, dans le salon, il y a plein de solutions et c'est hyper intéressant.
Oui, justement, dans le salon, là, je me rends compte que c'est grandissant dans le secteur public, les collectivités locales, parce qu'ils se rendent compte de toutes ces problématiques de souveraineté données, de coûts,
exactement.
Tout ce qu'apporte le logiciel, le monde du libre.
Exactement. Oui. Et nous, notre force chez Xivo, c'est que comme on est open source, on a les API first, nous, on s'intègre directement à des architectures beaucoup plus complexes. On fait du on-premise. Et ça, les collectivités, elles aiment beaucoup. C'est-à-dire que leur solution, elle est dans leur infra, dédiée, dans les mairies ou dans les universités. Oui. Et ça plaît beaucoup. Au lieu que leurs données partent dans le Michigan ou avec des solutions SaaS, nous, c'est vraiment, ça reste, ils peuvent mettre la main dedans, surtout.
Oui, ce que vous voulez dire dans on-premise, c'est que les serveurs sont chez eux.
Chez eux.
C'est pas dans le cloud où on sait pas où sont les données.
Exactement.
Vous installez chez le client, le serveur, c'est ça ce que ça veut dire quand vous dites on-premise.
Voilà. C'est ça. Et nous, nos clients, c'est vraiment des personnes qui aiment mettre les mains dedans. Voilà.
Ok, merci beaucoup Tom Grand-Georges de la société Xivo de cette
merci
petite interview.
Merci à vous, j'espère que ça vous a plu.
Oui. Alors il est 16h et je suis toujours aux rencontres professionnelles du logiciel libre et j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Et maintenant, c'est l'heure où j'ai l'immense chance d'interviewer pour l'émission Libre à vous Emmeline Baume, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, qui accueille cet événement des rencontres. Bonjour Madame Baume, et
bonjour.
Merci beaucoup. Première question, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'adhérer à l'April ? Parce que la métropole du Grand Lyon adhère à l'April.
Alors, pourquoi ? Parce que ça faisait sens, en fait, quand on est arrivé en situation de responsabilité en juillet 2020, on avait dans notre sac à dos ce parti pris pour, autour des logiciels libres, donc pour mieux et plus travailler les enjeux de souveraineté, mais aussi mieux et plus travailler la mise en commun d'outils, en particulier parce qu'on est une métropole. Donc on est la strate, entre guillemets, c'est pas très joli le mot strate, mais au-dessus des communes, et que contrairement à ce que les lois et la réglementation, entre autres la loi MAPTAM et la loi NOTRe définissent, on souhaite vraiment que la métropole elle agisse à l'échelle territoriale avec les communes pour répondre aux besoins des habitantes et habitants, avec entre autres l'outil numérique. Et il se trouve qu'on a une capacité d'agir avec des investissements, mais aussi avec de l'ingénierie de projets, avec des hommes et des femmes qui travaillent dans nos services, en particulier le service numérique, et qui sont en capacité d'accompagner les communes pour qu'elles puissent déployer des solutions qui auraient été co-construites. Et quoi de mieux que de le faire avec les acteurs du libre. Donc ça faisait complètement sens d'adhérer à l'April. Et puis après, il y a un sujet de portée du plaidoyer aussi, il me semble.
Oui, c'est bien ce que l'April le souhaite. Oui. Pourquoi est-il important pour que la métropole soutienne ces rencontres professionnelles aujourd'hui ?
Alors, c'est justement pour travailler à un autre angle. Là, dans la première question, c'était plutôt en quoi la solution du libre, ça permet à des acteurs publics d'être plus efficaces ensemble, voilà, tout simplement. Alors que là, le sujet, c'est de prendre conscience de la valeur économique des acteurs du libre, donc les hommes et les femmes qui ont créé, qui portent des organisations et des entreprises et qui agissent au sein de ces entreprises, et leur permettre de partager du retour d'expérience, de se rencontrer, éventuellement d'envisager d'agir économiquement ensemble, donc des rencontres business, pourquoi pas de répondre à des appels d'offres publics ou privés, enfin des acheteurs qui sont tenus par le code de la commande publique, etc., etc. C'est important d'avoir les deux piliers, voire même d'autres piliers, parce qu'il y a le sujet de l'accompagnement des usages dont on parlera sans doute, mais vraiment de dire la métropole c'est un donneur d'ordre, la métropole a un parti pris pour travailler le libre, mais elle ne le fera qu'avec des entreprises qui sont partie prenante en fait de ces enjeux-là, d'où les rencontres entre professionnels. Et puis après, il y a une raison très concrète, on est juste à côté d'un hub de transport et je pense que c'est un gage de réussite que de mettre à disposition ce lieu public juste à côté de la gare, tout simplement. On est sûr qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui seront là et c'est ce que je souhaitais.
Oui, effectivement. Alors une question sur justement les usages. En 2021, vous aviez voté une délibération pour la transformation de l'environnement numérique de travail des agents. Alors, je cite cette description de ce travail. Donc, cette délibération propose d'engager la collectivité dans une transformation de l'environnement numérique de travail des agents et de développer dans la durée la part de logiciels libres afin de mieux répondre aux attentes extrêmement fortes sur ces outils du quotidien, de maîtriser la dépense publique sur la durée et de préserver la souveraineté numérique de la collectivité. J'entends beaucoup ce mot. Ce concept souveraineté numérique. Et dépense publique, c'est vraiment les deux choses surtout aussi que j'ai entendues à la conférence tout à l'heure.
Oui. Comme beaucoup de collectivités, on est forcément captif d'une solution, la solution Microsoft. Et avoir en tête, pour celles et ceux qui nous écoutent, que la métropole de Lyon, c'est une organisation d'entre 9600 et 10 000 agents. Ce que ça veut dire, c'est énormément de besoins extrêmement différents. C'est pas du tout la même chose d'être sur le terrain et de devoir se géolocaliser et de rendre efficace la tournée de collecte des ordures ménagères que de porter un SI achat pour avoir les bonnes données pour évaluer notre politique publique d'achat responsable ou de porter un SI ressources humaines et d'éditer à temps les feuilles de paye, mais aussi d'être en capacité d'accompagner avec finesse et justesse les agents du service public dans leur parcours de formation, pour donner trois exemples extrêmement différents. Donc, quand on est arrivé en situation de responsabilité, l'équipe numérique nous a montré au président à moi et à la DGS l'augmentation exponentielle des besoins aussi bien en matériel qu'en solution logicielle et pro-logicielle légitime hein, des agents du service public pour garantir l'efficacité de nos politiques publiques. Cette dépense-là, elle ne fait que croître. S'y ajoute le sujet d'être dépendant d'une solution. Et donc, avec plein de bon sens, assez logiquement, on a dit, bah voilà, nous, on souhaite en sortir. On doit garantir un certain niveau de service public. Ce niveau de service public, il est garanti par le fait que des hommes et des femmes travaillent au quotidien, entre autres avec un outil numérique. Or, nous avions en tête qu'une partie de ces hommes et de ces femmes-là, après avoir fait des petites études avec des agents volontaires, que certains agents avaient un certain frein à utiliser des solutions libres, bah, par habitude, en fait, d'autres solutions, tout simplement. Et ce qu'on a découvert, qu'on savait déjà, mais c'était important de mener l'exercice, c'est de dire, bah, si on veut faire bouger l'environnement numérique de travail des agents, alors, il faut le faire progressivement, c'est ce qu'on a mis dans la délibération, en les accompagnant et en commençant autant que possible par des volontaires et en commençant sur des objets pas trop compliqués. Donc on a fait le choix d'y aller sur les outils collaboratifs et la messagerie et on le fait vraiment pas à pas. On a aussi fait le choix de le faire ensemble avec deux autres organisations, donc avec la ville de Lyon, enfin de travailler ce sujet en commun, par principe justement, donc avec la ville de Lyon et avec le CITIF qui est un syndicat qui porte des actions autour de l'informatique entre autres et qui regroupe une diversité de communes sur le territoire de la métropole mais aussi dans la Loire. Et je pense que c'est important que les personnes qui nous écoutent aient cette information, c'est-à-dire que dans notre parti pris politique de soutenir le développement de solutions en libre dans notre environnement numérique de travail, on a mis comme en méthode le fait d'agir à plusieurs et donc de créer en commun des solutions ou d'aller chercher en commun des solutions plutôt que d'acheter ou de trouver chacun dans son coin, ville de Lyon, métropole de Lyon, CITIV, des solutions, de les tester et de se rendre compte de ci, de ça. Pour être très transparente, on a fait le choix d'allonger encore le calendrier pour ce passage au libre pas à pas. Voilà, c'est pas forcément évident politiquement à vivre, mais j'ai bien compris qu'il y a un enjeu d'accompagnement aux usages des agents et agentes du service public. Et c'est pour elles et eux qu'on le fait, puisque c'est elles et eux qui garantissent l'efficacité de nos politiques publiques.
Merci beaucoup, Émilie Ndoum. Je suis maintenant avec Simon Clavier, président de l'association TOSIT, qui va bientôt faire une conférence aux rencontres professionnelles du logiciel libre et qui a bien voulu me parler 5 minutes avant d'enchaîner sur sa conférence.
Bonjour.
Bonjour, merci Simon. Pouvez-vous présenter TOSIT aux auditeurs de Libre à vous ?
Oui, alors l'association TOSIT, c'est une association qui regroupe des grandes organisations. À l'origine, on était 6, Carrefour, EDF, Enedis, Orange, Pôle emploi et SNCF. Donc moi, je suis employé SNCF, hein, je m'occupe de l'open source à la SNCF. Et cette organisation a vu le jour en 2017 parce qu'on avait besoin de mieux coordonner nos actions, de mieux réfléchir ensemble en fait à comment mieux utiliser l'open source aussi et aussi comment mieux contribuer à l'open source en tant que grand groupe. Il y avait déjà des cercles qui existent, hein. Il y a des choses comme le SIGREF où il y a déjà des gens qui discutent sur les sujets d'informatique, mais c'était pas suffisamment détaillé ou rentrait pas suffisamment dans le creux du sujet, quoi, sur mettre en place une stratégie open source, comment aller chercher plus d'open source, comment rendre aussi des choses qu'on aurait pu faire en open source, la contribution. Donc depuis 2017, on a beaucoup grossi puisque maintenant on est 19. Donc vous trouverez le site sur tosit.fr et donc ce sera justement l'objet de ma conférence, à expliquer qu'est-ce que cette action, pour comment on est né et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de progresser tous en fait. Hein. C'est-à-dire, dedans il y a des entreprises comme la Maïf par exemple qui fait beaucoup d'open source, qui crée des open source. Il y a par exemple RTE qui a monté une fondation qui s'appelle LF Energy pour faire de l'open source dans sa verticale industrielle de l'électricité, ce qui nous a d'ailleurs donné l'exemple pour nous de faire la même chose. La SNCF s'est engagée maintenant dans une fondation qui s'appelle Open Rail Association, où il y a la Deutsche Bahn, les chemins de fer suisses et l'Union internationale des chemins de fer. Et là aussi, on essaye de faire de l'open source également sur le domaine métier. Donc, je m'écarte un peu de Tozit, mais c'est un peu l'idée. Mais... C'est, en fait, c'est vraiment un endroit où on discute, où on échange nos stratégies, ce qui marche, ce qui marche pas, et on essaye d'avancer ensemble. Et c'est un vrai... oui, on essaie vraiment de faire de la co-construction, parce qu'on a eu, par exemple, je vais donner deux exemples que je vais donner dans la conférence tout à l'heure. Il y a eu un outil de chatbot qui s'appelle TOC, qui veut dire The Open Conversation Kit, qui a été créé par la SNCF il y a... un petit moment, plusieurs années maintenant, parce qu'elle ne voulait pas se faire des intermédiaires, etc. Et grâce à Tozit, on a pu comme ça le faire connaître et le faire utiliser et expliquer à ces entreprises comment ça marche. Et ça devient maintenant un vrai commun réutilisé par d'autres entreprises. Et un truc intéressant, c'est que c'est un des membres de Tozit, Crédit Mutuel Arkéa, maintenant, qui a été le plus gros contributeur sur TOC en 2023. Ça, c'est un des premiers exemples. Le deuxième exemple, c'est une distribution Big Data qui s'appelait Hortonworks et qui était open source, mais qui s'est fait, l'entreprise s'est fait racheter par son concurrent et ils ont fermé le code source. Ce code a été repris par des membres de Tozit, en l'occurrence EDF et le ministère des Finances, par la DGFiP. Hein. Et on a donc forqué le produit qui s'appelle maintenant Trunk Data Platform pour le perpétuer dans sa version, on appelle ça LTS, Long Term Support, pour une version qui dure longtemps. Et c'est déjà repris par d'autres membres de Tozit qui l'ont mis en production. Donc on voit bien que cette idée-là, c'est qu'on fait notre part aussi en créant. Nous sommes les utilisateurs finaux de l'open source, en fait. Hein, et en fait, on a notre part à jouer. Et souvent, je fais le parallèle avec les AMAP, en fait. L'idée, c'est d'aller chercher nos poireaux chez le producteur de poireaux. Quoi. Allons chercher le logiciel chez ceux qui font le logiciel et faisons notre part. Il faut qu'on sorte on a l'habitude, nous, de faire ce qu'on appelle make or buy. Soit on fait le logiciel, soit on achète le logiciel. Là, c'est une troisième voie où on fait le logiciel ensemble, où justement, ça apporte des bénéfices par rapport aux deux solutions qui ont elles-mêmes leurs défauts. J'achète le logiciel, j'ai un verrouillage fournisseur, j'ai des prix que je ne maîtrise pas, une roadmap que je ne maîtrise pas. Si je le fais moi-même, il faut que je supporte ça sur le long terme, que j'ai des personnes qui continuent à le développer. Et donc, les deux posent problème. Faire ensemble des briques communes qu'on maintient à plusieurs dans le temps, c'est un pari gagnant.
Merci Monsieur Clavier pour cette description inspirante, parce que j'ai pas beaucoup entendu l'histoire des grands groupes qui contribuent au logiciel libre et à l'open source et au partage.
On essaye.
Et donc le fait que vous soyez regroupés et donc, du coup, vous allez parler de ça avec votre conférence. Et voilà, je trouve que c'est super.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Je suis avec Charline Lombardo de Propsys. Merci, Charline, d'accepter cette interview.
Merci.
Donc, pouvez-vous nous expliquer que fait Propsys ?
Alors, Propsys, c'est une société de services spécialisée en logiciel libre. Et on a deux grands domaines d'activité aujourd'hui, l'administration système et réseau, où on peut intervenir sur tout type de projet, de l'audit du conseil, de la sécurité, de la formation, de l'hébergement, de l'infogérance, du transfert de compétences. Donc on vient en renfort d'équipes existantes ou vraiment en totalité sur le projet pour aider des équipes.
Et du coup, c'est quel type d'entreprise ?
Alors, on travaille avec tout type d'entreprise aujourd'hui, des administrations de l'État, des TPE, des PME, mais aussi des associations.
Et donc, vous avez aussi des applications métiers ?
Exactement. On a une activité de développement donc sur de l'application métier spécialisée. On vient répondre à un cahier des charges et on propose une application sur mesure pour nos clients.
Comment vous arrivez à... faire intégrer les logiciels libres, les environnements libres auprès de vos clients? Qu'est-ce qui fait qu'il les pousse à travailler avec vous? Quels sont vos arguments?
Alors, nos clients viennent nous chercher justement parce qu'on leur propose des solutions libres. Ils veulent pouvoir ne pas forcément être liés à un prestataire, avoir bien évidemment leur code et tout ce qui s'ensuit. Donc ça leur permet déjà d'avoir une réduction des coûts, même s'il y a une enveloppe budgétaire à mettre en place sur la mise en place d'un projet. Derrière, il n'y a pas de frais de licence et ils peuvent être complètement autonomes. Donc réinternaliser les compétences s'il y a le besoin, ou faire appel à d'autres prestataires de services pour être le plus libre possible. Puis en complément de ces applications métiers, on est venu mixer un petit peu nos compétences pour être éditeur de nos propres solutions. Donc on a développé une solution libre qui s'appelle Agenji, un anti-spam. Et on est en cours de développement d'une solution qui s'appelle Billetto, un outil de ticketing.
Donc ces outils sont libres, peuvent être utilisés par tout le monde.
Exactement, et on a volonté à ce que tout le monde puisse les utiliser parce que les utilisateurs sont riches d'expérience et peuvent nous faire des retours pour qu'on puisse améliorer nos outils aussi au quotidien.
Ben, merci beaucoup Charline et bonne fin de salon.
Merci.
Je suis avec Damien Accorsi de l'entreprise Algou. Bonjour Damien.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire que fait Algou ?
Donc Algou est un éditeur de logiciels libres et de services basés principalement sur des logiciels libres. On a un service de collaboration, un logiciel de collaboration qui s'appelle Tracim, qui est un logiciel qui est destiné à la collaboration d'équipes. Okay. Sur ce logiciel, on est éditeur. Et on a un service d'email qu'on a lancé en 2023, qui est là, on est plutôt éditeur de service et on contribue à une brique open source sur laquelle on s'appuie pour le service.
Ok, et alors quel type d'entreprise, organisme utilise vos solutions de logiciels ?
Alors on a trois typologies principales de clients. On a des associations, des collectivités et des TPE-PME.
Alors, j'ai cru comprendre qu'entre les associations et les collectivités d'un côté et les entreprises de l'autre, il y avait des enjeux différents entre la souveraineté et autre chose pour les entreprises.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, les associations et les collectivités sont très demandeuses de souveraineté des données et de réversibilité des services qu'on propose. C'est-à-dire que les logiciels libres vont leur permettre, si à un moment donné ils sont insatisfaits ou que nos tarifs sont trop élevés, ça va leur permettre de passer soit chez un autre prestataire, soit d'héberger eux-mêmes leurs solutions. Et donc c'est une garantie financière pour eux qui ne seront pas verrouillés comme clients chez Algou. Au niveau des entreprises du milieu privé, c'est un peu différent. On va dire que les choix sont plutôt calculés et pragmatiques, où on va chercher un périmètre fonctionnel avec un coût associé. Et les clients vont chercher la solution avec le meilleur rapport qualité-prix.
Vous nous avez parlé de votre nouvelle offre email qui est sortie en novembre, je pense.
Ouais, c'est
alors
ça.
Est-elle en croissance ?
Ouais, donc du coup la solution email Galae est sortie effectivement en novembre. On avait fait une campagne de précommande avant de la lancer à l'été 2023 qui nous a permis de valider qu'il y avait une demande pour ce service. Le service a été lancé en novembre. Suite à quoi on a eu quelques mois à essuyer des difficultés techniques. Ça s'est résorbé courant mars. Depuis le mois d'avril, la plateforme fonctionne très bien et maintenant on est dans une phase où on cherche de nouveaux clients, sachant que on a un certain nombre de clients qui ont commandé avec des offres plutôt petites et qui passent progressivement sur des offres plus importantes, signe que le service est satisfaisant.
Ah, bravo et merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup.
Les rencontres professionnelles du logiciel libre se terminent et j'ai la chance d'être assise à côté de Benjamin Sontag pour une petite interview. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté. Pourquoi c'est important pour vous de venir aux rencontres professionnelles du libre ? Pourquoi c'est important pour vous de faire du libre ?
Alors, c'est deux questions différentes. Pourquoi c'est important de faire du libre ? Parce que c'est pour moi la seule façon de faire de l'informatique qui puisse vraiment rendre service à toutes et à tous. Parce que le faire en propriétaire, c'est forcément faire une clausure, refermer les capacités d'innovation et de... Je veux dire, Internet n'aurait pas pu avoir lieu sans le logiciel libre. Clairement, tout Internet, okay. le réseau lui-même. Ouais. Quoi. Donc, toutes les innovations, toutes les améliorations qu'on peut apporter à notre quotidien, c'est mieux si elles sont accessibles à toutes et à tous. Et pourquoi c'est important d'aller au RPLL en particulier ? Bah parce qu'en fait, on parle souvent du libre dans les milieux associatifs, dans les ONG, à différents endroits, mais c'est important aussi pour les entreprises. Et qu'on soit simple entreprise ayant besoin d'usage, ce qu'on appelle l'IT, c'est-à-dire bureautique, email, communication de base. Il y a plein de logiciels libres qui peuvent vraiment répondre à nos besoins de manière, je dirais, très pertinente et franchement plus stable, plus fiable, plus robuste que ce qu'on peut trouver souvent en propriétaire. Mais surtout plus respectueux des données personnelles, plus respectueux des business et des entreprises qu'on monte et qu'on gère. Je suis moi-même gérant d'une entreprise de 10 personnes, donc on est vraiment très concerné par ces sujets. Et clairement, on n'a aucun problème informatique parce qu'en fait, on a fait des choix de logiciels libres dès le début. Et c'est une culture qu'on a. Et franchement, on est très content de nos usages au quotidien. Et c'est quelque chose qui m'étonne, c'est à quel point les gens galèrent avec leur Windows, avec leur Office, avec leur machin. Et nous, on galère pas, donc peut-être ça peut aider les professionnels de savoir que ça existe. Et donc, en faisant des rencontres professionnelles, on montre aussi à des PME, à des TPE, à des entreprises locales qu'il y a des usages, qu'il y a des solutions, qu'il y a des entreprises qui peuvent les aider à avoir des solutions maintenues, stables, fiables. Et donc, je suis très content de participer à ça et d'aller rencontrer un peu les camarades des différentes PME du Libre de la région Rhône.
Merci beaucoup, Benjamin Sontag, de nous avoir partagé votre vision inspirante du domaine du Libre.
C'est gentil, merci.
Benjamin Sontag, fondateur de la société Octopus, spécialisée dans l'hébergement et l'infogérance de serveurs, clôture cette série d'interviews. Il était 18h, la clôture de cette folle journée qui nous a montré toutes les possibilités offertes par le logiciel libre et les sujets que l'on doit encore creuser. Avant de partir, nous avons eu droit à un apéro bien mérité, avec encore des partages d'expériences et des échanges bien sympathiques. Je remercie toutes les personnes de ces rencontres pour l'accueil qu'ils ont réservé à l'équipe de l'émission et d'avoir participé aux interviews. Vous avez rendez-vous à Lyon, à l'hôtel de la Métropole, pour la 5e édition des rencontres professionnelles du logiciel libre, le jeudi 25 mai 2025. En attendant, vous pourrez bientôt écouter les conférences de cette année sur le site internet rpll.fr, qui est hébergé gracieusement par la société Webelis, qui était également présente au RPLL et qui avait proposé la conférence intitulée « Ne pas payer son site e-commerce ». Notre émission se termine. Nous allons finir par quelques annonces. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette 213e émission sur le site libreavoue.org/213. Aura lieu du 18 au 30 juin à Lyon, State of the Map France, les rencontres nationales d'OpenStreetMap. Le 29 juin, Bouquinette, la présidente de l'April, sera à Valence à la LibriTech, dans le cadre de son tour des Gules. Les GULs, ce sont des groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs du logiciel libre. Rendez-vous donc samedi au Fabrico à Valence, 7 rue Belle Image, de 10h à 11h30. Comme vous le savez sans doute, toutes les pauses musicales diffusées dans l'émission sont sous licence libre. Depuis son lancement, nous avons diffusé près de 400 titres. Pour les découvrir, nous vous proposons sur le site, une playlist et un tableau mis en forme pour retrouver toutes ces musiques. Le vendredi 5 juillet, notez bien, le vendredi 5 juillet, soirée radio ouverte à 19h30, ici à la radio, pour tous, au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc nous vous attendons pour la soirée radio ouverte. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, les participantes et les participants des RPLL et Laurent Costi et Laurette Costi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production et des podcasts, tous les bénévoles de l'April, Samuel Aubert, Elodie Dienel-Giraudion, Languin, Julien Haussmann et Olivier Grigaud, le directeur d'antenne de la radio. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 juillet avec la ville de Malakoff. Et d'ici là, portez-vous bien. La notion de logiciel libre est apparue quand ? Il y a 40 ans. Où ? Aux États-Unis. Par qui ? Richard Stallman, qui a été initiateur du mouvement du logiciel libre.